qui termine une thèse sur Marx jeune hegelien. Et bon, cette configuration Marx-Stirner a été évoquée par M. Esbach, et l'importance de cette constellation. Et donc, elle est aussi l'auteur de plusieurs articles sur le libéralisme de Marx, les annales franco-allemandes, la religion chez Hegel et Marx, donc des thèmes qui sont en rapport direct avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, elle va nous parler à nouveau de ce contexte jeune hegelien. Et voilà, je vous donne la parole.
Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Mon intervention à moi va évidemment d'abord s'adresser aux agrégatives et aux agrégatifs, puisque bon, le but c'est de vous épargner des lectures, hein, c'est déjà assez à lire et vous avez le reste du programme. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, ce livre, comme beaucoup de textes jeune hegeliens, comme l'idéologie allemande par exemple de Marx, Engels, Weidemeyer et Hesse, c'est en grande partie un centon, une composition de citations d'autres textes jeune hegeliens, donc il faut les voir dans le texte parce qu'elles sont souvent implicites, et c'est à ça que va servir, en tout cas j'espère, mon intervention. Bien, si la teneur jeune hegelienne de cet intertexte, l'intertexte de l'unique, elle est assez évidente, que cette teneur elle réside directement dans la discussion de textes jeune hegeliens ou dans le fait que les intertextes secondaires de l'ouvrage, notamment libéral, socialiste, communiste, soient discutés à partir de leur réception jeune hegelienne, le rapport de Stirner au jeune hegelianisme, dans cet ouvrage qui est son ouvrage principal, ce rapport est moins clair. À la première lecture, on peut avoir l'impression d'un auteur solitaire qui réfute tout le monde et se tient à distance de toutes et tous les auteurs de son temps. C'est toutefois un fait que Stirner a d'abord été jeune hegelien. Jeune hegelien, il l'a été socialement, par ses espaces de publication, et théoriquement. Socialement, comme l'a mentionné Norbert Vachek, Stirner a été un jeune hegelien berlinois, fréquentant les réunions du groupe au Café Hippel. Et plus précisément, si Stirner a été un ami proche de Bruno Bauer, sa position dans la division des groupes jeune hegeliens est spécifique. À partir de 1842, le mouvement jeune hegelien se divise en trois groupes distincts. Un groupe réno-saxon, qui immigre bientôt à Paris, centré autour de Rougeau et de Marx, et deux groupes berlinois. Bon, il faudrait ajouter une espèce de groupuscule bavarois autour de Feuerbach. Deux groupes berlinois, celui centré autour de Bruno Bauer, et celui qui est appelé Freien pendant l'été 42, regroupant surtout des anciens collaborateurs de la revue Athenaeum, Eduard Meyen, Ludwig Bull, Adolf Rutenberg, Köppen, Theodor Müge, etc. Et c'est à ce dernier groupe, qui un temps est appelé les Freien, les Libres, qu'a appartenu Max Stirner. Plusieurs textes qui lui sont hypothétiquement attribués depuis les travaux de son biographe Mackay résident d'ailleurs en une justification des Freien, une justification de l'intention d'apostasie volontaire et officielle qui leur était attribuée. En 42, Stirner rejetait ainsi la subordination de la pleine citoyenneté à la confession dans son article « Über die Verpflichtung der Staatsbürger zu irgendeinem Religionsbekenntnis » excusez-moi pour mon accent, pour les germanophones et les germanistes. Et Stirner justifiait le caractère strictement philosophique et non révolutionnaire de la démarche de ses amis dans l'article qui s'appelle justement « Die Freien ». Stirner partage avec ceci, et celle-ci d'ailleurs, la pratique du scandale, choquant les bonnes mœurs, comme à l'occasion de son mariage très nonchalant avec Marie Denhardt. Il est aussi jeune hegelien par ses organes de publication. Il écrit dans les principales revues et journaux du mouvement, la Gazette Rhénane, dirigée par Rutenberg puis influencée par Marx, les annales allemandes de Ruge, la Gazette Générale de Leipzig, dirigée par le bauerien Gustav Julius. Et c'est enfin chez Otto Wigand, l'éditeur jeune hegelien des jeunes hegeliens, que l'unique est publié fin octobre 1944. Enfin, cette proximité s'est traduite théoriquement dans les travaux de Stirner. Celui-ci fait ainsi dès janvier 1942, comme ça a été mentionné ce matin, l'éloge de la trompette du jugement dernier de Bauer, l'ouvrage qui, en 1941, avec l'essence du christianisme de Feuerbach, signait l'émergence du jeune hegelianisme par scission et par radicalisation vis-à-vis de la gauche hegelienne principalement. C'est avec le même Bauer que Stirner projetait un écrit en commun qui ne verra pas le jour. Dans sa défense des Freien, enfin, Stirner se fait le défenseur du corpus thétique le plus classique chez les jeunes hegeliens, soutenant la possibilité de l'éthicité de la Sittlichkeit sans la religion. Je le cite, Désolé, j'ai eu le réflexe de traduire, mauvais réflexe face à des germanistes. Sortie de l'Église, mais morale, éthicité, devoir envers la famille, la société civile et l'État. Fin de citation. À l'époque, il est pour tout ça. Hein. Une telle célébration d'une éthicité libérée de la religion, évidemment, ça ne peut manquer de nous surprendre chez un auteur qui, 2 ans plus tard dans le NIC, se fait le pourfendeur de toute forme de morale. C'est cet écart théorique qui pose la question du caractère, encore jeune hegelien ou non, de l'unique. Cet ouvrage constituerait-il une rupture de Stirner et une sortie du mouvement jeune hegelien, à comparer à ce titre avec l'idéologie allemande de Marx, Engels, Weidemeyer, Hess et Bernet, qui n'a pas rendu sa partie. Mais Hess non plus, d'ailleurs, ne l'avait pas rendu. Mais à la base, il y avait 5 auteurs qui étaient censés écrire tout ce texte florissant. Alors, sur ce sujet du Stirner, jeune hegelien ou non dans l'unique, 3 thèses principales ont été soutenues. La première fait de l'unique la quintessence ou la conséquence ultime de la philosophie jeune hegelienne. Et cette thèse a été généralement soutenue à charge par des auteurs marxistes, tels Auguste Cornu, qui voyait chez Stirner une philosophie absurde autant qu'abstraite, simultanément anarchiste et réactionnaire. Ça, c'est le coup classique des marxistes. Quand on est anarchiste, on est réactionnaire, et inversement. Bon. La seconde thèse ignore tout simplement le contexte hegelien et jeune hegelien de l'œuvre stirnerienne, situant ailleurs l'originalité de l'ouvrage de Stirner, notamment pour Émile Armand dans son prétendu anarchisme individualiste. Enfin, 3e thèse, tout en reconnaissant que les positions de Stirner s'enracinent dans les débats jeunes hegeliens, on voit dans l'unique une rupture, une critique globale de Stirner vis-à-vis des jeunes hegeliens. C'est la position, par exemple, de Tanguy Laminot et d'Éric Villain. Je chercherai dans mon propos à partiellement préciser et corriger cette 3e approche en soutenant la thèse, premièrement, d'un texte typiquement jeune hegelien par sa méthode, et deuxièmement, d'un texte qui constitue un positionnement particulier et explicitement thématisé à l'intérieur du jeune hegelianisme. Le jeune hegelianisme, ça n'est pas une pensée monolithique. Je soutiendrai la thèse d'un texte typique d'une phase précise, la dernière phase, de l'évolution du mouvement jeune hegelien. Appartenance permettant de rapprocher l'unique d'autres textes jeune hegeliens chronologiquement proches. L'unique, j'ai donc dit, c'est un ouvrage typiquement jeune hegelien par sa méthode critique, résidant dans une sécularisation de représentations morales, religieuses et politiques, qui, d'autorité transcendante, sont ramenées au rang de produits de l'esprit humain. L'unique est présenté comme une dissolution générale de toutes les idoles que se donnent les individus pour reconduire ces dernières idoles, ces derniers, les individus plutôt, à leur propre puissance autonome. Toute idée générale est ainsi critiquée comme idole, Götzen, ou idée fixe, asservissante pour la personne singulière, je cite Stirner. Chaque être suprême, comme la vérité, l'humanité, etc., est un être au-dessus de nous, fin de citation. C'est ainsi le pouvoir normatif de tout idéal prétendument universel qui se voit rejeté pour son caractère, d'une part, illusoire et d'autre part, asservissant. Concernant ce caractère illusoire, Stirner étend la critique jeune hegelienne de la religion à toute norme idéale, réduite à une simple apparence qu'il désigne par les vocables de spectre et de fantôme. Le cerveau humain est hanté par ces idoles qui, formellement, suivent toutes le même modèle du, je cite Stirner, « spectre mystérieux que nous nommons être suprême ». Fin de citation. Autant de divers fantômes sont tous au fond le même, formellement, dont Stirner, tout au long de l'unique, se fait l'exorciste sans Dieu, ou le désacralisateur, c'est le terme qu'il emploie. L'aspect de soumission, aspect d'illusion, aspect de soumission, est quant à lui plutôt soutenu par le vocabulaire de la folie. C'est à ce titre que ces idoles sont aussi décrites comme des idées fixes, au double sens de l'idée figée en dehors de l'agir humain et de la lubie. Le comportement des hommes en tant que dicté par une telle lubie est maniaque, faisant souffrir l'individu soumis à une idée fixe. C'est ainsi en termes de possession et de fanatisme, ainsi qu'en termes de domination idéale ou d'assujettissement, que la subjectivité des individus soumis à une idée fixe est décrite. Cette manie de suivre une norme idéale conduisant l'individu à son auto-reniement, c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement traduire Selbstverleugnung. En effet, toute assignation de la vérité de l'individu singulier à une idée générale est une réduction de celui-ci à l'une de ses propriétés, paradigmatiquement, l'esprit. Déniant ainsi la réalité corporelle. Le terme de liberté de l'esprit est ainsi retourné par Stirner. Il ne désigne pas ma liberté, mais celle d'un esprit abstrait, d'un esprit conçu comme universel et indépendant des individus réels. Conséquence plus pragmatique de cette critique générale des normes, Stirner, au plan politique, rejette la légitimité de tout gouvernement et de tout État, et au plan éthique, opère une critique des mœurs et des bonnes mœurs, non au sens où telle mœurs précise devrait être critiquée, mais au sens d'une attitude soumise consistant à adopter et à juger certaines mœurs comme bonnes. À ce sujet, Stirner critique notamment toute intervention de l'État en matière morale, notamment par l'institution du mariage. Le procédé critique employé par Stirner envers toutes ces idées fixes réside dans une indifférenciation formelle. Toutes ces idées fixes ont des noms et des contenus différents, Dieu, l'être humain, la liberté, la société, le droit, les bonnes mœurs, etc., mais sont formellement identiques. Elles sont en effet de pures idées abstraites, abstraites au double sens de séparé et de vide, qui dominent les individus. Ainsi pour Stirner, en religion comme en politique ou en philosophie, s'opère toujours la sacralisation d'essences ineffectives, fantômes dont il dresse régulièrement des listes variables ponctuées d'un « etc. ». C'est ainsi moins la spécificité des dominations que leur identité de fond qui intéresse Stirner, qui rend par exemple secondaire la distinction hegelienne entre société civile et État, tous deux étant toujours une communauté normée par des règles juridiques et morales transcendantes. De ce fait, Stirner indifférencie aussi les questions sociales et politiques, jugeant que l'État, comme le paupérisme, consiste dans la dévalorisation de l'individu. Les deux vont toujours de pair. Le nerf de la guerre de la critique stirnerienne soutenant cette indifférenciation formelle réside dans sa théorie historique de la substitution. Historiquement, toutes les époques ne font que substituer une idole à une autre. Ainsi, telle époque, telle doctrine, tel parti politique, parti au sens de prise de parti à l'époque, pas d'organisation, tel parti politique ou philosophique ne sont jamais une véritable transformation, mais seulement la substitution d'une idée fixe à une autre. Fondamentalement, nous ne sommes jamais sortis de la bondieuserie et de la domination. Conséquence historiographique, tout ce qui est communément décrit comme une révolution ou une libération, chaque transition d'une époque à une autre, n'est jamais qu'un changement de maître, Herrenwechsel, écrit Stirner. Cependant, cette théorie de la substitution implique que l'apport théorique de la réflexion historique soit minoré. Cette digression sert un propos pour Stirner plus fondamental. Parfois, cependant, un élément d'évolution historique semble être réintroduit, mais dans une lecture à rebours du progrès, identifiant plutôt, d'une manière iconoclaste, en cité hegelien, une aggravation de la domination. Ainsi, avec provocation, Stirner juge le jésuitisme, terme polémique servant alors à désigner l'adversaire ultramontain, comme chez Heine, le jésuitisme comme moins insupportable que le protestantisme, et l'État moderne comme plus asservissant que l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, pourquoi ? Parce que l'État moderne, c'est une monarchie véritablement absolue, car elle abolit les privilèges qui limitaient encore le pouvoir monarchique en instaurant un service de l'État qui représente un nouveau service et culte de l'État qui implique le sacrifice de l'individu. Dans l'ensemble cependant, la considération qui prédomine dans l'unique est que le changement historique n'est jamais que superficiel. C'est par conséquent un défaut de radicalité que diagnostique Stirner dans toutes les révolutions antérieures et notamment la Révolution française. Celle-ci n'était pas dirigée contre l'existant et les maîtres en général, mais seulement contre cet existant et ses maîtres qu'elle s'est empressée de remplacer. Pareillement, dans le domaine spirituel, l'esprit n'est que le nouvel idéal ou au-delà de notre existence individuelle réelle que la philosophie moderne substitue à Dieu. Stirner propose donc, selon le terme d'Étienne Balibar, une critique nominaliste de toute idée générale assignée à la représentation illusoire de ce qui est la seule réalité, les individus singuliers et leurs propriétés. Ce concept n'étant pas à saisir, concept de propriété en un sens uniquement économique, mais plutôt au sens large des propriétés de l'âge classique, hein, qui inclut mon corps, mes pensées, en plus de mes propriétés matérielles, c'est-à-dire tout ce dont l'U et l'abus relèvent de mon arbitre. Ainsi pour Stirner, je le cite, « Il n'y a donc pas la moindre vérité, ni le droit ni la liberté de l'humanité, qui ait une consistance devant moi et à laquelle je me soumette. Ce sont des mots, rien que des mots. » Fin de citation. Ce n'est donc que la croyance et le respect qui leur est porté qui soutient les idoles, lesquelles n'existent pas en soi. Je cite encore Stirner. Aucune chose n'est sacrée par soi, mais par ma sanctification, par mon arrêt, mon jugement, ma génuflexion, pour faire court, pour ma conscience morale, Gewissen. Fin de citation. C'était déjà cité tout à l'heure. Stirner propose donc une genèse subjective de la domination. C'est par la soumission, au sens d'une attitude subjective de loyauté et de servilité, il emploie les deux termes, que tient la domination. Je le cite, « Si la soumission cessait, s'en serait alors finie la domination. » Ainsi, juridiquement, la loi n'a pas de pouvoir coercitif tant qu'elle n'est pas moralement intériorisée comme un devoir. Stirner opère ainsi une réduction subjective de la domination à une soumission, expliquée par une éducation qualifiée de dressage, que Stirner dénonçait déjà dans son article de 42, le faux principe de notre éducation. l'abandon de la croyance et du respect dans les idoles suffit à détruire leur domination. Ce résumé de la position critique et de la méthode de Stirner dans l'unique est en fait, voyons dans quelle mesure elles inscrivent cet ouvrage dans le jeune hegelianisme. Stirner partage avec l'ensemble des jeunes hegeliens une conscience de l'époque comme étant celle d'une nouvelle rupture historique, d'une transition par la lutte d'une époque à une autre. Ruge, dans ses articles des annales de Halle, puis des annales allemandes, Köppen, dans Frédéric le Grand et ses adversaires, Bruno Bauer, dans Die Landeskirche Preußens und die Wissenschaft, donc tous et toutes voient dans l'époque présente celle d'un bouleversement qui mettra fin à l'époque chrétienne. Ainsi pour Stirner, chaque époque se caractérise par le dépassement agonistique d'un maître, de la nature dans l'Antiquité, de Dieu pendant l'époque chrétienne, et désormais, de l'homme, de l'être humain plutôt. C'est la suppression de toute autorité prétendument transcendante et de tout existant figé justifié par cette transcendance qui doit opérer cette transition. La tâche généralement assignée à la philosophie par les jeunes hegeliens est donc de contribuer à la libération de l'effectivité en la conceptualisant de la manière la plus immanente qui soit, en la comprenant dans son autonomie. C'est bien de cette tâche, de la théorie comme critique, que continue explicitement de se revendiquer Stirner selon ce maître mot de critique, le maître mot du mouvement jeune hegelien. La philosophie doit être critique et non spéculative, Stirner reprenant à ce titre la thèse feuerbachienne d'une transposition et continuation de la théologie par la philosophie spéculative, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'idéalisme allemand, spécifiquement dans son moment schellingien et hegelien. Les idées fixes doivent ainsi être soumises au couteau tranchant de la critique. C'est la domination, autant que le caractère de produit de ces idées fixes qu'il s'agit de dénoncer, et leur prétendue extériorité par rapport à l'immanence humaine. Si le terme d'entfremdung est peu présent dans l'unique, le lexique bauerien de l'étrangeté n'y demeure pas moins structurant, Stirner opposant systématiquement fremd et eigen, psychologisant par là une critique du donné théologique notamment, qui chez Bauer et la plupart des jeunes hegeliens a d'abord un sens historique, politique et théologique. C'est ainsi l'existant comme tel, posé comme un donné justifié par sa seule existence, qu'il s'agit de refuser. Stirner se ralliant de la sorte au programme de critique de l'existant impulsé par Bruno Bauer. Comme ce dernier, Stirner défend en effet l'auto-activité et l'auto-détermination. Or, comme le soutient Bauer dès l'Église évangélique de Prusse et la science, 1840, tout produit de cette libre activité humaine a tendance à s'objectiver dans une forme déterminée dont la fixité et la limitation contredisent la liberté. Contradiction qui appelle au nouveau dépassement de cette forme. C'est ainsi en suivant Bauer, là je parle de Bruno Bauer, que Stirner peut affirmer que, je le cite, « la poussée vers une liberté déterminée renferme constamment l'intention d'une nouvelle domination ». Fin citation. Conséquence politique de cette critique de l'autorité du donné, Stirner peut dénoncer toute hiérarchie, se situant ainsi dans la ligne de la critique par Ruge et Echtermeyer d'un principe de hiérarchie établissant une continuité entre, d'une part, la hiérarchie catholique médiévale et d'autre part, la monarchie et bureaucratie prussienne, toutes deux partageant une séparation entre clercs et profanes, privant ces derniers de tout pouvoir. Si, contrairement aux autres jeunes hegeliens cités plus haut, c'est à même l'individu singulier, et non dans le genre, comme Feuerbach, ou dans le procès historique collectif de la conscience de soi, comme chez Bauer, que Stirner situe cette réalité profane qui est à désaliéner, les conséquences politiques qu'il tire de son anthropologie individualiste ne visent toutefois pas à un isolement de l'individu. Pour Stirner, l'isolement de l'individu procède bien plutôt de la religion, séparant l'être humain du monde dans un ciel imaginaire. C'est en faveur de relations interindividuelles non soumises à des normes supra-individuelles que se prononce Stirner sous les concepts d'association, Verein et de commerce, Verkehr. Comme chez la plupart des jeunes hegeliens, après la phase de collaboration entre les jeunes hegeliens et le mouvement libéral allemand en 1841-42, c'est contre le libéralisme que se tourne notamment la critique stirnerienne, faisant le bilan critique de cette collaboration. Pourquoi ? Parce que les libéraux, ils sont acritiques, unkritisch. Formellement identiques aux croyants et aux monarchistes, ils croient en un absolu abstrait, celui de l'État et du droit. Ainsi, la critique véritable, s'il a bien une signification politique, ne doit cependant pas s'engager dans le parti libéral, ni même dans aucun parti. Tout parti reconduisant à une nouvelle représentation hypostasiée, comme le dénonçait déjà Bruno Bauer dans son article « Quel est maintenant l'objet de la critique ?». Le mouvement libéral allemand est ainsi dénoncé comme moralisateur, mais aussi comme inoffensif vis-à-vis de la monarchie et du gouvernement, se contentant de demandes respectueuses. dénonçant, comme le font Engels dans « Libéralisme d'Allemagne du Nord et d'Allemagne du Sud ». Je me fais un peu de pub parce que je l'ai publié avec quelques amis présents dans la salle. Ou Edgar Bauer dans « Le juste milieu ». Dénonçant la demi-mesure du libéralisme, Stirner n'est donc pas l'intellectuel rejetant en soi toute prise de position politique que la plupart des marxistes y ont vu. Le marxisme, c'est plutôt un obstacle épistémologique à lire Stirner. Le type de position de Stirner contre l'attitude de mendiant, c'est un terme qu'il emploie, de l'opposition libérale, est à comprendre dans ce cadre de radicalisation politique des jeunes hegeliens à partir de fin 1942. Cette communauté méthodologique, mais aussi théorique et éthique de Stirner avec les autres jeunes hegeliens, ne doit toutefois cependant pas masquer la particularité de sa position à l'intérieur de ce milieu. Celle-ci n'est toutefois pas totale. Cette particularité, elle réside essentiellement en deux points. Premièrement, dans l'égoïsme et le singularisme de Stirner. Ce qui existe effectivement et qui doit se libérer des idées fixes n'a rien d'intrinsèquement collectif. Ce sont les personnes, les individus singuliers et non une liberté impersonnelle. Deuxième particularité, le statut et la signification minorée accordée à l'histoire, ce que je disais tout à l'heure. Le statut de l'histoire n'est qu'illustratif. Et sa signification n'est pas celle d'une libération progressive, mais de changements superficiels. Si ces critiques de l'histoire et de la liberté sont propres à Stirner, le reste des critiques de concepts jeunes hegeliens proposés par Stirner se trouvent déjà dans les polémiques intra-jeunes hegeliennes de l'époque. L'État ayant déjà été critiqué par Hess et par Edgar Bauer, et l'esprit au profit de la sensibilité par Feuerbach critiquant Hegel. La démarche de Stirner dans l'unique consiste donc à soutenir des positions très partiellement en fait en rupture avec le jeune hegelianisme au moyen de la méthode jeune hegelienne de critique sécularisante, poursuivant ainsi cette critique en l'appliquant au concept d'être humain, de conscience de soi et de liberté. Ce positionnement critique à l'intérieur du mouvement jeune hegelien, comme j'ai dit tout à l'heure, il est explicite, il est thématisé par Stirner dans l'unique. L'anthropologie générique de Feuerbach est la première cible manifeste de cette critique. Ainsi, une partie des attaques de Stirner contre l'être humain, Der Mensch, sont dirigées contre Feuerbach et contre les jeunes hegeliens qui s'en réclament, c'est-à-dire ceux du groupe constitué autour de Ruge et de Marx, groupe qui d'ailleurs a scissionné au début de 1944, en mars 1944, février-mars. Feuerbach ayant fait de ce Mensch le nom principiel de sa philosophie. Il n'est cependant pour Stirner que, je le cite, « une essence plus élevée qu'un être humain singulier ». Fin de citation. Et de ce fait, ce Mensch n'est qu'une nouvelle illusion d'ordre religieux. La prétendue libération permise par Feuerbach est donc, je cite Stirner, tout à fait théologique, c'est-à-dire Gottesgelacht, versé en Dieu, versé dans l'érudition théologique. Fin de citation. Contre cette nouvelle essence abstraite, l'être humain, Stirner affirme, je le cite, je ne suis ni Dieu, ni l'être humain, ni l'être suprême, ni mon essence. Fin de citation. L'humanité ou le genre, Gattung, ça n'est que, je le cite encore, un de nos caractères propres, Eigenschaften, c'est-à-dire notre propriété. Fin de citation. Du coup, y voir la totalité de notre être ne fait que reconduire le mépris chrétien du moi haïssable. Ainsi, Feuerbach a beau avoir rejeté la croyance en l'immortalité personnelle dans ses pensées sur la mort et l'immortalité, Stirner lui reproche d'être toujours en accord, je le cite, malgré tout ton athéisme avec les croyants en l'immortalité dans le zèle contre l'égoïsme. Fin de citation. Les Feuerbachiens démocrates et socialistes tels Ruge et Marx, qui mettent en avant l'idée d'égalité contre l'égoïsme, ne valent pas mieux. La critique stirnerienne en reste cependant rarement à un seul auteur. Le procédé principal de sa critique intra-jeune hegelienne consiste en effet en des regroupements polémiques. Il s'agit de mettre ensemble, d'identifier comme défendant essentiellement les mêmes théories fautives, des jeunes hegeliens qui sont rivaux, qui appartiennent alors à des groupes distincts. L'erreur de l'humanisme est ainsi autant attribuée à Feuerbach qu'à Bruno Bauer, qui a son grand rival pour la domination dans le mouvement jeune hegelien, et ce dès l'exergue de la première section. Ainsi, après avoir attaqué indistinctement bauerien, démocrate, socialiste, jeune hegelien, pour avoir revendiqué une société libre, Stirner passe sans transition à Feuerbach en faisant le défenseur d'une nouvelle religion centrée sur l'éthique, qui aboutirait au même reniement de soi que les positions précédemment dénoncées. Avant d'encore citer pour les identifier Feuerbach et Bauer, Stirner se livre à une indifférenciation complète des jeunes hegeliens et de la religion. Je le cite. Les nouveaux critiques fulminent contre la religion, car elle poserait Dieu, le divin, l'éthique, etc. à l'extérieur de l'être humain, où on ferait quelque chose d'objectif, tandis que déplace plutôt ce sujet dans l'être humain. Mais ces critiques n'en tombent pas moins dans l'erreur propre de la religion, consistant à donner à l'être humain une détermination en ce qu'ils veulent le savoir divin, humain, et ainsi de suite, éthicité, liberté, humanité, etc. En réalité, cela revient au même de nommer cette détermination le divin ou l'humain. Fin de citation. Stirner peut donc conclure. À l'encontre de l'ensemble indistingué des jeunes hegeliens, nos athées sont de pieuses gens. La critique jeune hegelienne s'est retournée par manque de critique en religion, et ce principalement lorsque cette critique s'engage politiquement. Elle aboutit alors pour Stirner à ce qu'il appelle une religion politique, terme pouvant viser le sens élargi, conféré à la religion par Ruge, désignant par là tout enthousiasme collectif pour une cause politique, dans ses articles de 42-43. C'est au même Ruge que Stirner reproche d'avoir seulement mis la raison à la place d'une autorité sacrée occupée antérieurement par l'Église ou la Bible, ou d'avoir loué récemment, avec le poète et avec, les mérites du parti, ne faisant ainsi que reproduire la forme étatique imposant un tiers dominant au commerce des individus. Ces regroupements polémiques laissent toutefois temporairement la place, dans le chapitre dit Freien, qui désigne donc un ensemble beaucoup plus large que le seul groupe berlinois auquel appartenait Bauer, à un tableau des différentes orientations politiques et intellectuelles de l'époque, et parmi elles des différents courants jeunes hegeliens. Ces orientations épocales sont divisées en différentes versions du libéralisme, politique, social et humain. Stirner reprend ainsi le geste du grand juriste libéral Aretin, qui en 1816, dans son article « Was heißt liberal », dans une nette référence au « Was heißt Aufklärung » de Kant, faisait du libéralisme le principe de l'époque. Cette identification du libéralisme au principe de l'époque est toutefois reprise à titre critique par Stirner. Le libéralisme n'est plus vu, comme chez Aretin, comme le principe du progrès de l'époque, mais au contraire de sa stagnation, se caractérisant par la substitution de l'idole de liberté à celle de Dieu. Ce mouvement libéral allemand est critiqué comme libéralisme politique. C'est ainsi, encore une fois, la collaboration éphémère entre jeunes hegeliens et libéraux qui est dénoncée a posteriori. Comme Edgar Bauer, Moses Hess ou Marx, Stirner se refuse à restreindre, comme les libéraux dans leur Mittelmäßigkeit, la critique à une attaque contre l'absolutisme et la bureaucratie, et revendique une critique du politique comme telle, et de l'État, puisque l'État comporterait intrinsèquement une domination. Citant comme exemple de l'erreur libérale l'article « Sur la participation à l'État » où le jeune hegelien Karl Nauwerk s'en prenait encore à l'indifférence et à l'inaction politique, Stirner dénonce en Nauwerk un croyant en l'État, ne saisissant pas que l'État n'est pas à réformer, mais à abolir. La seconde partie des Freien vise, sous l'appellation de libéralisme social, les mouvements socialistes et communistes approchés et reçus par Stirner et les autres jeunes hegeliens depuis la publication en 1942 du tableau « Le socialisme et le communisme de la France actuelle » par Lorenz von Stein. Comme chez ce dernier, ces doctrines sont saisies par Stirner comme une poursuite du libéralisme politique mettant l'accent sur l'égalité. Ce ne sont pas seulement des jeunes hegeliens qui sont donc attaqués ici. Stirner mentionne aussi le communisme d'expression religieuse de Weitling ou d'August Becker. Mais pour identifier la religiosité de ce communisme à la Weitling et Becker, au communisme athée d'une partie des jeunes hegeliens. Ceux qui sont visés ici, mettant en avant la société humaine, sont les représentants du communisme d'inspiration feuerbachienne, nommé humaniste, mouvement qui se développe à Paris et en Rhénanie autour de Marx, Hess et de la revue Vorwärts à partir de 1844. C'est en ce sens qu'il faut lire la référence à l'humanité et aux besoins faites par Stirner pour stigmatiser leur théorie. Stirner recourt aussi à la conceptualité du Hess des 21 feuilles, qui à l'époque n'était pas encore d'ailleurs communiste, il était anarchiste justement, soulignant que, je le cite, « les communistes déclarent que la seule libre activité est l'essence de l'être humain ». Cette expression de libre activité vise en effet probablement Hess qui en fait son principe dans ses articles « Die eine und ganze Freiheit » et dans « Philosophie der Tat ». Qu'en est-il de Marx, maintenant ? C'est le moment où je montre que je ne suis pas complètement une turiféraire de Marx, même si je fais une thèse sur lui. À l'époque, c'est un auteur mineur, profondément mineur, qui est vu comme un second couteau dans le mouvement jeune hegelien. Stirner ne le mentionne qu'à une seule reprise dans l'Unique, il mentionne sur la question juive, pour illustrer un autre auteur, pour illustrer l'anthropologie générique de Feuerbach. Marx identifierait dans la question juive, selon Stirner, l'individu à un être générique, ce qui est vrai. C'est donc comme un feuerbachien mineur que Marx intervient, étant de fait à l'époque un jeune hegelien secondaire, ayant peu publié, et toujours dans l'ombre de plus grands noms, comme Bauer en 41-42 et Feuerbach en 43-44. C'est toutefois surtout au libéralisme humain que se consacre Stirner, ou à la critique pure, qui sera aussi dénoncée par Marx, Engels dans la Sainte Famille. Est ici visé le groupe jeune hegelien berlinois centré autour de Bruno Bauer et de sa théorie de la conscience de soi, mot d'ordre bauerien, groupe composé principalement, en plus des trois frères Bauer, parce qu'il y a aussi Egbert qui publie les deux précédents, composé donc de Jungnitz, Fauché, Hetzel et Schelliga, et qui trouve alors son organe dans la Gazette Générale de Littérature, Allgemeine Literaturzeitung. C'est pour Stirner ce libéralisme critique qui accomplit le libéralisme. Ce que Stirner nomme les Kritischen se voit attribuer deux défauts principaux. Premièrement, ils ne font que sacraliser l'éthicité par les libertés, humanité, conscience de soi, etc. Deuxièmement, ils sombrent dans un intellectualisme, réduisant la critique aux seules pensées, face auxquelles Stirner réhabilite, contre sa critique hegelienne, la présupposition, celle du moi, de chair et d'os, et son activité d'autoposition immanente. Ça, la réappropriation polémique de la présupposition de la Voraussetzung, c'est un geste qui sera repris par Marx dans l'idéologie allemande. Si Stirner consacre plus précisément une remarque rajoutée après la rédaction de l'ouvrage à l'article de Bauer, de Bruno Bauer, quel est maintenant l'objet de la critique, c'est surtout sur le livre « La question juive » qu'il concentre ses critiques. Dans ce texte, le plus discuté de l'unique, Bauer traite en effet de deux points qui intéressent Stirner. Le rapport du particulier à l'universel, sous la forme du rapport du judaïsme et la religion en général à la citoyenneté et à l'humanité, et le libéralisme. La question juive de Bauer devient en effet, à partir de sa publication, 43, la grande critique jeune hegelienne du libéralisme, par rapport à laquelle toute autre critique du jeune hegelienne du libéralisme, comme celle de Marx, doit se situer. Dans la question juive, Bauer critique les intérêts particularistes et exclusifs propres à chaque religion au nom de l'universalité du droit. Contre cette critique, Stirner se propose de réhabiliter l'exclusivité. Donc quand vous voyez exclusivité dans le texte, c'est une polémique contre Bauer. L'unique exclut en effet toute fin étrangère, l'individu singulier, je le cite, et l'exclusivité même. Ce même rejet du particularisme au profit d'intérêts universellement humains, voire du désintéressement mis en avant par Edgar Bauer dans sa recension de l'Union ouvrière de Flora Tristan, est pareillement dénoncé par Stirner comme une mythologie de l'être humain. Cependant, après cette distinction des différents courants jeune hegeliens dans Nie Freien, Stirner les réassimile dans la seconde section, citant indifféremment Bauer, Feuerbach, Hess, pour développer par distinction sa théorie égoïste. Le rapport de Stirner au groupe de Bauer n'en est pas moins particulier. Le chapitre qui est consacré à ce groupe est le deuxième plus long de l'unique, probablement car Stirner y discute le groupe jeune hegelien qui est théoriquement et socialement le plus proche du sien. Cette proximité entraîne deux spécificités. En premier lieu, la position des bauriens est présentée comme le degré le plus abouti du libéralisme, celui dont la contradiction ne peut plus être résolue que par le passage à la position stirnerienne. En second lieu, le libéralisme humain est la seule théorie dont il y aurait une leçon à tirer. Je cite Stirner, « La critique m'offre cette occasion, par la doctrine selon laquelle si quelque chose se fixe fermement en moi et devient indissoluble, alors j'en suis le prisonnier et le serviteur, c'est-à-dire un possédé. » Donc la critique bauerienne fournit bien une instruction, ne laisser aucune partie de notre propriété devenir stable et préférer à cela une activité de dissolution constante. Cette leçon s'applique cependant au premier chef, aux bauériens eux-mêmes, infidèles à cette critique dans leur hypostasie de la conscience de soi et de la liberté. Face à eux, Stirner demeure plus proche du second groupe berlinois, anciennement dit des Freien, les Meyen et compagnie, dont il ne critique jamais les membres dans l'unique et sa propriété. Il cite à un moment un membre du groupe, mais sans le critiquer, il cite juste une source. Donc pour conclure, en revenant à ce caractère de jeu d'échecs, de jeu de prise de position mutuelle les uns et les unes par rapport aux autres dans le mouvement jeune hegelien. Le rapport polémique de Stirner aux autres jeunes hegeliens dans l'unique ne constitue pas une rupture avec le jeune hegelianisme, ça constitue une manière d'être jeune hegelien. Or, cette manière n'est pas propre au seul Stirner, elle se généralise parmi les jeunes hegeliens à partir de 1844. Cette nouvelle manière est propre à la troisième phase d'évolution du mouvement. Après une première phase d'enthousiasme initial en 41 début 42, et une phase de division sur les questions politiques et du rapport entre politique et athéisme phase qui est à peu près été 42 à 43. Mais ces divisions, elles maintenaient cependant un cadre commun. Dans cette troisième phase, le jeune hegelianisme intègre un fonctionnement collectif consistant en une autocritique généralisée. Toute prise de position jeune hegelienne se doit de rejeter comme insuffisamment critique l'ensemble du mouvement, enfin le reste du mouvement. Les critiques faites aux adversaires externes du mouvement, les conservateurs, les ultramontains, etc., sont ainsi reproduites pour critiquer des membres internes du mouvement, désormais. Le mouvement fonctionne ainsi sur un schéma de crise permanente, voire d'autodissolution permanente. Être jeune hegelien, être vraiment critique, c'est proclamer sa rupture avec les autres jeunes hegeliens à partir de ce moment-là. Le ton de rejet général de l'unique est représentatif de cette phase, mais il n'est pas le seul. Ainsi, avant la publication de l'unique, les Norddeutsche Blätter de Köppen soulignent déjà le caractère acritique des revendications sociales et politiques. Liberté de la presse, publicité, association, organisation du travail, et donc des revendications jusqu'alors formulées par certains jeunes hegeliens. Par ses engagements politiques, le libéralisme de 41-42, mais aussi l'engagement socialiste des jeunes hegeliens parisiens et rhénans à partir de 43, eh bien par tout cet engagement, la critique se serait dégradée en adoptant les idoles ininterrogées que Bruno Bauer fait tomber de son statut souverain, par exemple en qualifiant le peuple, idole libérale par excellence, de masse. C'est ainsi l'ensemble du mouvement qui aurait, pour Bruno Bauer, succombé en 1942, lors de sa collaboration avec les libéraux, à des illusions théologico-politiques. Ce même été 1944, dans ses manuscrits de 1944 alors impubliés, Marx adopte le même ton d'autocritique du mouvement, rejetant l'ensemble des théologiens critiques de notre époque pour leur manque de radicalité. Si cette critique, en 1944 puis en 1945 dans la Sainte Famille, ne vise que les bauériens et elle se réclame de Feuerbach, elle se généralisera par l'exemple stirnerien en 1945-1946 dans les manuscrits de l'idéologie allemande. Utilisant la même tactique de regroupement polémique que Stirner, Marx, Engels y brocarde l'ensemble des jeunes hegeliens, de Bauer à Feuerbach, en passant longuement par Stirner, dont ils reprennent pourtant la réhabilitation de la présupposition, l'appliquant non seulement comme Stirner aux individus réels, mais aussi aux modes d'activité productive et aux rapports sociaux et politiques. Proche de Marx et d'Engels à cette époque, Hesse se fait le critique de Bauer comme de Stirner dans « Les derniers philosophes », voyant dans leurs œuvres qu'il juge sévèrement le signe du dépassement de la forme philosophie elle-même. Enfin, c'est en réaction directe à l'unique de Stirner que Carl Schmitt, ça ne s'écrit pas comme l'autre, publie en 1846 « Das Verstandestum und das Individuum », appliquant à Stirner même son argument de la substitution des idoles pour voir dans l'unique le dernier représentant de, je le cite, « la domination abstraite de l'esprit », fin de citation. Le concept abstrait d'unique devrait donc laisser la place au simple individu. Donc cette troisième phase d'évolution du jeune hegelianisme par autocritique et annonce de la fin du mouvement, elle s'étend de l'année de publication de l'unique jusqu'à la disparition du groupe ou du moins du fonctionnement collectif du groupe en 1946. Alors ce fonctionnement collectif par autocritique généralisée, cette dernière phase, on peut l'apprécier diversement. Une possibilité, ce consiste à n'y voir qu'une surenchère, quelque peu vaine, qui aboutirait en Stirner à une négativité généralisée jusqu'à l'absurde. Il est cependant possible, à l'inverse, de souligner l'extrême productivité théorique que cette surenchère permet aux jeunes hegeliens dans cette dernière phase de leur évolution en tant que groupe. La contribution de Stirner à cette productivité doit peut-être moins être évaluée d'après ses thèses positives que par son caractère heuristique. Par son nominalisme, Stirner met l'ensemble des jeunes hegeliens en demeure de justifier de l'immanence et de la sécularité des principes qui les emploient. Ainsi, si Stirner a pour partie obtenu une postérité, d'ailleurs restreinte, du fait de la critique que Marx fait de lui dans l'idéologie allemande, c'est bien l'aiguillon stirnerien d'une critique de l'abstraction de l'anthropologie feuerbachienne qui fut pour Marx structurante, cette anthropologie jusqu'à la Sainte Famille, qui conduit Marx désormais à modifier ses positions en leur donnant pour présupposition non plus le genre humain, mais l'organisation sociale des individus en classe. La critique de Saint-Max par Marx n'est intelligible que sur le fond de cet apport stirnerien. Je vous remercie de votre attention.
Alors, merci beaucoup pour cette mise au point très précise sur la situation de Stirner dans, au sein de cette dynamique critique jeune hegelienne. Alors, est-ce qu'il y a, on va pas faire une très longue discussion, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-dessus, des demandes de précision? Oui.
Merci pour votre bel exposé. Je reviens sur sur un point particulier. Vous avez parlé de l'histoire, de la conception de Stirner de l'histoire, et vous avez parlé de changement superficiel. Dans le même temps, vous avez souligné que il y a quand même à chaque stade une évolution dans le sens d'une aggravation de la soumission. Je pense qu'on peut aussi, et vous en avez parlé, évoqué ici, ça me semble un point fondamental, c'est le processus d'intériorisation, puisque c'est un point et qui montrerait justement que qu'il y a une logique de développement historique. Donc entre le catholicisme et le protestantisme, on a ce passage à une intériorisation de l'autorité extérieure qui va ensuite se renforcer dans le libéralisme, le communisme et dans le criticisme. Donc on a bien une logique qui augmente. Et vous l'avez très bien montré, ces contradictions de plus en plus croissantes chez les jeunes hegeliens, qui déboucheraient, et vous l'avez dit aussi, sur la phase de l'individualisme. Et donc ma question, ça serait, est-ce que Stirner n'est pas détenteur ou porteur d'une philosophie de l'histoire à l'envers, dans lequel le progrès serait plutôt vu comme une régression, qui finalement, par une espèce de retour qui le rattacherait à Hegel, serait positif dans le sens où, au terme des contradictions, on arrive au règne de l'unique, au règne de l'individu, qui est finalement ce que prêche Stirner. Et j'aimerais rappeler ce passage dans lequel il dit que il fait une analogie avec l'enfant qui doit sortir du giron maternel pour s'éprouver se confronter à l'extérieur et devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un individu. Et la société, finalement, l'histoire, ce serait l'affranchissement de l'humanité des cadres sociaux. Et ne serait-on pas là, justement, au niveau à ce point de rupture où l'on cesse d'être des êtres collectifs pour devenir des vrais individus, avec, bien sûr, à l'appui ces réflexions très, très, très rudimentaires sur l'association d'égoïstes.
C'est aussi la question du rapport à Hegel et ce modèle dialectique qui reste présent, finalement, l'idée qu'on ne peut pas se libérer sans avoir été asservi. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut bien voir que l'unique est un ouvrage qui n'est pas systématique, explicitement, et qu'effectivement, se croise de registres de critiques du progressisme historique hegelien et jeune hegelien. Un registre assimilant l'histoire à une stagnation, quand je parlais de changement superficiel, et un registre associant effectivement l'histoire à une intériorisation en, finalement, comme vous le disiez, en étendant le modèle catholicisme-protestantisme. Et la représentation du protestantisme comme étant voilà, une intériorisation de la foi, en étendant ce modèle à ce qui vient après, aux principes épocaux que seraient libéralisme, criticisme, communisme. Alors, je ne suis pas certaine, par contre, que l'extension se fait de manière indistincte. Parce que, pour le criticisme, c'est absolument clair, puisque son idole est principalement la conscience de soi, le grand concept bauerien. Pour le libéralisme aussi, avec le concept d'homme. Pour le communisme, c'est moins clair que Stirner y critique une intériorisation, puisque il emploie un air critique au contraire, plutôt de la grossièreté, nous allons toutes et tous devenir des gueux avec le communisme. Donc, il n'applique pas au communisme cette, ce principe d'intériorisation historique, ce qui, à mon avis, est tout simplement lié au fait que cet ouvrage est plus polémique que systématique. Hein. Il présente pas une théorie de l'histoire parfaitement cohérente. Son but est plutôt de détruire l'idée d'histoire comme progrès. Et pour ça, il utilise différentes armes, histoire comme stagnation, histoire comme intériorisation de la domination, sans trop se soucier des critiques, à la limite des incohérences, parce que l'essentiel, ici, est de battre en brèche toutes les grandes représentations de l'époque. Et la grande représentation de l'époque de Luther serait une libération, c'est extrêmement présent dans le libéralisme allemand, c'est extrêmement présent chez Feuerbach, qui écrit finalement que, voilà, au bout d'un moment, Luther, il n'y a qu'à expliciter un peu plus et il n'y a plus de Dieu. Donc, encore une fois, je ne pense pas que Stirner est complètement cohérent et qu'on aurait affaire à une théorie de l'histoire tout à fait systématique de sa part. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, qui n'est pas qu'une question, mais aussi une intervention en propre. Oui. Sur le règne de l'unique. Là encore, je ne suis pas certaine que Stirner voit l'époque à venir comme un règne de l'unique. Il pense que c'est une possibilité, les individus seront peut-être assez forts, mais en aucun cas utiliser le vocable si collectif de règne comme si ça allait définir une nouvelle époque. Quelque part, il n'y aura plus d'époque. Le règne de l'unique, ce n'est plus une époque parce que ça n'a plus de principe fondamental. L'égoïsme est un contre-principe. Donc, il ouvre cette possibilité et parfois, il est un petit peu infusé par cette veine très messianique des jeunes hegéliens. Attention, on arrive dans un grand bouleversement historique, c'est la fin du christianisme. Mais dans l'ensemble, la veine un peu eschatologique... on arrive à un grand mouvement, un grand bouleversement, et la liberté, pas chez lui du coup, va en émerger, beaucoup moins présente chez lui que même chez Marx, ou encore plus chez Bauer et chez Ruge. Donc, pour lui, l'émancipation, et ce sont des libérations individuelles, et des individus libérés pourront éventuellement mettre en place un contre-ordre social, à savoir des associations contingentes et temporaires, en fonction d'intérêts eux-mêmes contingents et temporaires, mais ça ne donne pas une époque au sens hegélien ou moltien du terme, ça ne donne pas une époque de l'humanité unifiée par un principe unique et par un progrès aussi. Effectivement, c'est un affranchissement de tout cadre social permanent. C'est un affranchissement de tout cadre social qui instituerait des normes supérieures aux interactions temporaires des individus en fonction de leurs intérêts. Mais effectivement, le point important, c'est que voilà, le point de rupture, comme vous le disiez, c'est là où on cesse d'être des êtres collectifs pour devenir des individus. Effectivement, alors lui, il fait attention à peu dire individu, il dit 3-4 fois personne. Parfois, donc, individu singulier, Einzelne, mais on sent qu'il y a un effort chez lui pour ne pas employer trop systématiquement un concept issu de l'hégélianisme pour en faire son principe. On sent qu'il veut éviter, justement, de passer pour le nouveau sacralisateur d'une nouvelle idée qui viendrait de la langue philosophique hégélienne. D'où ces inventions de Einzige, de Eigentum, ou que personne soit prise dans un sens assez peu hegélien chez lui, c'est vraiment personne au sens courant, c'est pas la personne au sens du sujet de droit juridique, du droit abstrait. Mais effectivement, c'est bien le moment où on cesse d'être collectif pour devenir des individus ou des uniques. C'est-à-dire que ça, c'est nettement dirigé contre Feuerbach. L'idée que, essentiellement, qu'est-ce que l'être humain ? C'est un Gattungswesen. Et à quelle justification du communisme ça mène chez Hesse, chez Marx et chez Engels. Là-dessus, c'est nettement une polémique intra-hégélienne contre Feuerbach et le communisme feuerbachien, oui.
rapidement, parce que, vraiment, si c'est possible.
Non, c'était juste pour essayer de défendre un peu la systématicité de par rapport à cette à l'étape il me semble, alors j'ai pas le bien parfait de citation que j'ai fait, mais il me semble quand même qu'il est question d'un degré d'intériorisation supplémentaire dans le cadre du communisme, au sens où c'est vraiment le les idéaux chrétiens qui sont complètement désacralisés, enfin, où les idéaux chrétiens seraient complètement sécularisés via le communisme, mais ça sera à vérifier. En revanche, sur la question de la propriété, il y a bien une progression. Il dit, c'est page 287, « Heißt es sozialistisch, die Gesellschaft gibt mir, was ich brauche, so sagt der Egoist, ich nehme mir, was ich brauche. » Au sens où le communisme, c'est le stade où le droit de propriété devient le plus développé et enfreint le plus le droit naturel, entre guillemets, d'appropriation de l'individu. Je ne sais pas si c'est clair, parce que le droit de propriété, même le droit bourgeois, c'est un obstacle pour l'unique de Stirner, au sens où on lui prête une propriété qui devrait l'unique devrait s'approprier. Et là, on est dans le socialisme, on est dans le stade extrême de ce prêt de propriété. Et donc, on est dans ce qui viole le plus le droit naturel. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de m'exprimer comme ça pour l'unique de s'approprier lui-même les choses.
Oui, effectivement. Du coup, s'il y a une continuité historique, non, mais vous avez raison de souligner ça. C'est-à-dire s'il y a une continuité historique de l'erreur communiste pour Stirner, enfin de l'idole communiste pour Stirner par rapport à ce qui vient avant, ça concerne plutôt la propriété, donc par là le rapport des individus singuliers à leur propriété au sens large, que du coup la question de l'intériorisation. Donc il y a bien une continuité, mais qui ne se situe pas sur la question de la spiritualité, puisque souvent le communisme est décrit comme complètement grossier, ce que fait Marx aussi à l'époque, hein, il décrit le communisme comme grossier. Après, est-ce que ça autorise à voir dans la question de la propriété, ce qui serait un autre fil rouge possible de la conception stirnerienne de l'histoire. J'ai l'impression que c'est moins présent dans sa discussion, par exemple, du protestantisme, et qui plus est, c'est brouillé par le fait qu'il saute de propriété au sens économique étroit. Il discute communisme, il saute sans cesse à propriété au sens de l'âge classique, au sens large. Donc je ne suis pas certaine que ça fournit...
Il y a quand même une idéologie du travail.
Il y a ?
Avec le communisme, on n'a plus le droit de travailler.
Ah oui ?
C'est un sacré renforcement de cette soumission, de cette tutelle.
Ah mais pour lui, c'est un renforcement de la soumission. Mais ce n'est pas un renforcement de la soumission qui va dans le sens d'une intériorisation...
Oui, mais il insiste aussi sur une contrainte sociale aussi, oui. Qui vient de la société.
C'est ça, mais justement, il en parle plus effectivement en termes d'une contrainte sociale et d'une gueuserie et grossièreté généralisée que sous la forme d'une spiritualité. Donc, je suis pas certain que ça soit complètement cohérent là-dessus.
Oui, et puis ça renvoie à une ambiguïté structurelle entre une argumentation qui emprunte une sorte de philosophie de l'histoire pour justifier en fait une sortie de la philosophie de l'histoire. Je trouve que c'est là qu'il y a une tension dans cet ouvrage qu'on ne pourra pas résoudre là tout de suite, juste avant la pause déjeuner. Donc je propose qu'on se retrouve... Non, là on va arrêter là parce qu'on a vraiment une demi-heure de retard. Donc il faudrait qu'on puisse reprendre vers 14h10... parce qu'on peut pas squatter la maison indéfiniment ce soir. Est-ce que la salle sera fermée ?
Je fermerai la salle et vous verrez à 14h05.
D'accord, très
on
bien.
On reprend à 14h10.
Alors, oui, on va essayer, oui. Merci.